VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du 12 août 2022, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Les titres pour commencer, au Sénégal, le Conseil constitutionnel publie les résultats officiels des législatives. En Guinée, nouvelle poursuite contre l'ex-premier ministre Ibrahima Kassori Fofana pour détournement présumé de fonds. En Sierra Leone, retour au calme après des émeutes meurtrières. Au Somaliland séparatiste, la police tire sur des manifestants, plusieurs morts. L'Éthiopie démarre une deuxième turbine sur son barrage sur le Nil malgré les protestations du Soudan et de l'Égypte en aval. Ici aux États-Unis, le ministre de la Justice, Merrick Garland, dit avoir personnellement approuvé la perquisition chez l'ancien président Donald Trump. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a publié hier soir les résultats officiels des élections législatives. Même si le vote issu des urnes ne lui octroie pas la majorité absolue, la coalition au pouvoir peut compter sur le ralliement de Pape Diop, ancien maire de Dakar, pour atteindre le nombre nécessaire afin de contrôler la 14e législature. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Le Conseil constitutionnel a confirmé les résultats provisoires annoncés il y a quelques jours par la Commission nationale de recensement des votes. Après avoir rejeté le recours introduit par la coalition Natangé, les juges constitutionnels ont confirmé les 82 sièges obtenus par la coalition Benno Bokkyakar au pouvoir, les 56 de la coalition Yewi Askanui dans lequel est l'opposant Ousmane Sonko, les 24 de la coalition Wallou Sénégal de l'ancien président Abdoulaye Wade et les 3 sièges restants qui reviennent aux coalitions Les Serviteurs, Art Sénégal et Bokou Giss Giss. Cette dernière, dirigée par Pape Diop, rejoindra le groupe parlementaire de la coalition au pouvoir, lui permettant ainsi d'atteindre la majorité absolue avec 83 députés. Pape Diop, ancien maire de Dakar et ancien président de l'Assemblée nationale, affirme que sa décision va permettre au Sénégal d'éviter des situations de blocage institutionnel où le président de la République va gouverner par ordonnance, ce qui serait, d'après lui, un recul démocratique pour le pays. Même s'il est annoncé à plusieurs postes, l'ancien président de l'Assemblée nationale précise qu'il a rejoint le groupe parlementaire de la coalition présidentielle sans condition. Son ralliement offre ainsi à ses alliés une marge de manœuvre plus confortable au Parlement, même si la forte présence de l'opposition avec plus de 80 députés risque de peser lourd dans chaque acte posé durant cette législature. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
Le parquet de Guinée va engager de nouvelles poursuites contre l'ex-premier ministre Ibrahima Kassori Fofana pour le détournement présumé de plus de 4,5 millions d'euros destinés à des programmes économiques et sociaux. C'est ce qu'a annoncé jeudi le ministre de la Justice. Monsieur Fofana, qui est incarcéré depuis avril dernier, est déjà sous le coup d'une autre enquête portant sur le possible détournement de plus de 40 millions de dollars destinés à la gestion de l'épidémie de Covid. En Sierra Leone, au moins 4 membres des forces de sécurité ont été tués mercredi dans des manifestations contre la vie chère. Manifestations qui ont tourné à l'émeute dans 3 villes, dont Freetown, la capitale. Le calme est maintenant revenu, Eric Manirakidza.
Plusieurs commissariats ont été vandalisés, a déclaré le porte-parole de la police dans un rapport préliminaire. Plusieurs civils ont également été tués lors de ces affrontements sanglants, selon un responsable de la morgue de Freetown et les médias locaux, mais aucun bilan officiel n'avait été donné hier après-midi. Mercredi, de violents heurts ont opposé la police et des manifestants appelant au départ du président Biyo à Freetown et dans plusieurs villes de la province du Nord, notamment à Makawi et Makeni. Le président Julius Mada Biyo, en visite privée au Royaume-Uni, est rentré dans la nuit et a tenu des réunions dans la journée avec des membres de son cabinet et du gouvernement. Le couvre-feu annoncé de 15h à 7h locales et en temps universel le mercredi est maintenu jusqu'à une date indéfinie de 19h à 7h du matin La connexion Internet suspendue momentanément la veille restait jeudi très défaillante et a été coupée presque toute la nuit.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé jeudi les gouvernements congolais et rwandais à cesser de soutenir les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo lors d'une visite au Rwanda, dernière étape de sa tournée africaine. Il existe des rapports crédibles sur un soutien aux groupes armés par toutes les parties, y compris les FDLR par les forces congolaises et le M23 par les forces rwandaises, a déclaré Anthony Blinken à l'issue des discussions avec le président rwandais Paul Kagame à Kigali. Nous aurons en seconde partie de cette édition notre correspondant sur place, Jean Damascène Manishimwe. En Somalie, la police a ouvert le feu jeudi sur des manifestants dans la région séparatiste du Somaliland, tuant plusieurs personnes et blessant des dizaines d'autres. Mohamed Humfa pour les détails.
Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de la capitale Hargeisa, mais aussi dans les villes de Burao et Erigavu après l'échec des négociations entre le gouvernement et les partis d'opposition. Ces derniers accusent les autorités de chercher à retarder l'élection présidentielle prévue en novembre. Les manifestants portaient des pancartes pour le maintien des élections au 13 novembre 2022 et scandaient des slogans anti-gouvernementaux. C'est alors que la police est intervenue. Un organisateur de la manifestation, Ahmed Ismail, a déclaré que 3 personnes, dont une femme, ont été tuées à Hargeisa et que 34 autres ont été hospitalisées. Plusieurs personnes, dont un des gardes de sécurité de notre chef de parti, ont été tuées. Nous enquêtons toujours sur le nombre total des décès qui peut être plus élevé, a déclaré un membre de Wadani, le principal parti de l'opposition. Une personne est par ailleurs morte à Erigavo lors d'affrontements entre les manifestants et la police, selon un témoin.
L'Éthiopie a démarré jeudi la deuxième des 13 turbines de son méga-barrage sur le Nil Bleu et confirmé que la troisième étape du remplissage du réservoir est en cours, malgré les protestations de l'Égypte et du Soudan. Le point avec Rosine Mounezero.
Avant de pousser le bouton hier pour démarrer la deuxième turbine du grand barrage de la Renaissance, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a de nouveau tenté de rassurer Khartoum et le Caire. Nous l'avons dit et répété aux pays en aval, en produisant de l'électricité, nous développons notre économie et voulons permettre à nos citoyens qui vivent dans le noir de voir la lumière, a-t-il déclaré. L'Égypte et le Soudan ont plusieurs fois demandé à l'Éthiopie de cesser ses opérations de remplissage du barrage, en attendant que soit conclu un accord sur ce sujet et sur les modalités de fonctionnement du barrage. L'an dernier, l'ONU a recommandé aux 3 pays de poursuivre leur pourparlers sous l'égide de l'Union africaine, mais elles sont toujours dans l'impasse. L'Égypte dépend entièrement du Nil pour sa survie et l'Éthiopie pour sortir sa population de l'extrême pauvreté. Les États-Unis, qui ont déjà tenté plusieurs médiations sans succès, craignent une guerre pour l'accès à l'eau dans la région.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le ministre de la Justice, Merrick Garland, a affirmé hier avoir personnellement approuvé la perquisition spectaculaire du FBI chez l'ancien président Donald Trump en Floride. Il a aussi condamné ce qu'il a appelé les attaques infondées contre son ministère et la police fédérale. Après ce raid, la police fédérale, c'est le FBI, après ce raid qui a suscité la colère des républicains Jack Aristide.
Lors d'une conférence de presse exceptionnelle, M. Garland n'a rien dévoilé des raisons et des résultats de cette opération compte tenu de ses obligations éthiques. Mais fait habituel, il a annoncé avoir demandé à un juge de Floride de rendre public le mandat ayant permis la perquisition. M. Trump ayant publiquement confirmé la perquisition et au vu de l'intérêt public important pour cette affaire, a expliqué le ministre de la Justice, ajoutant qu'il a personnellement approuvé la décision de réclamer un tel mandat. Monsieur Garland a souligné que le ministère ne prend pas ce genre de décision à la légère, précisant qu'elle avait été approuvée par un juge fédéral. Monsieur Trump, qui a reçu une copie du mandat mais ne l'a pas révélé, a jusqu'à vendredi pour contester cette requête. Pour des analystes, Monsieur Garland renvoie ainsi la balle à Donald Trump, qui assure que la perquisition est injustifiée et a été menée pour des raisons de persécution politique, le mettant de fait au défi de s'opposer à la publication du mandat. Selon le Washington Post, citant des sources anonymes proches du dossier, certains des documents recherchés lors de la perquisition ont trait à des armes nucléaires. Signalons par ailleurs que jeudi, un homme armé qui avait tenté de pénétrer dans des bureaux du FBI dans l'Ohio a été tué par les forces de l'ordre après une longue confrontation.
Le site de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, a de nouveau été bombardé jeudi. L'Ukraine et la Russie s'en accusant mutuellement, tandis que le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique a demandé de pouvoir y accéder aussi vite que possible au cours d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. La Minute Éco, Nanit Talani.
L'Éthiopie a démarré jeudi une deuxième turbine sur les 13 prévues du méga barrage qu'il construit sur le Nil Bleu et dont le troisième remplissage se poursuit en dépit des protestations du Soudan et de l'Égypte en aval. Le premier ministre Abiy Ahmed a à nouveau tenté de rassurer les deux pays en affirmant « Le seul objectif du grand barrage de la Renaissance est de développer notre économie en produisant de l'électricité. Il ne vise pas à mettre le Caire et Khartoum sur la touche et à leur nuire. » La société minière anglo-belge de Ashanti, basée en Afrique du Sud, annonce une hausse de 3% de sa production d'or, soit 1,233 millions d'onces au premier semestre. AngloGold soutient que cette embellie augmentera au second semestre pour atteindre les prévisions comprises entre 2,55 et 2,8 millions d'onces. AngloGold exploite des mines en RDC, au Ghana, en Guinée, en Tanzanie, en Argentine, en Australie et au Brésil. Pour terminer, Brazzaville organise la première édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo qui se tiendra jusqu'au 20 août. 5000 artisans de plusieurs pays dont le Sénégal, le Togo, la RDC, le Rwanda, la Guinée, le Niger prennent part à cette rencontre avec plus de 2 millions d'articles. Au programme, expositions, ventes, ateliers, rencontres, conférences, animations culturelles pour permettre aux participants de renforcer leurs liens professionnels en vue de l'éclosion du secteur artisanal.
Merci Nanit. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Football, le Maroc s'est séparé de son sélectionneur.
Oui, la Fédération marocaine de football a annoncé s'être séparée à l'amiable de Vahid Halilhodžić en poste depuis 3 ans. Dans un communiqué, la Fédération évoque des divergences du point de vue au sujet de la préparation idoine des Lions de l'Atlas pour le Mondial, l'intransigeance du sélectionneur sur les cas Hakim Ziyech et Nusayir Mezraoui lui a donc été fatale. Fidèle à ses principes, le coach franco-bosnien dit ne vouloir que des joueurs qui donnent 100% pour l'équipe nationale. Il avait alors refusé de reprendre le milieu offensif de Chelsea, de même que l'arrière de l'Ajax Amsterdam, qui avait par le passé décliné la sélection. C'est la troisième fois de sa carrière que le coach Vahid est remercié après avoir qualifié une équipe au Mondial. Après la Côte d'Ivoire et le Japon, Vahid était à la tête de la sélection marocaine depuis août 2019. À 3 mois de la Coupe du Monde au Qatar, à laquelle les Lions de l'Atlas participeront, la fédération devra vite se trouver un sélectionneur. Le Maroc, versé dans le groupe F, sera aux prises avec la Croatie, la Belgique et le Canada.
Justement, la FIFA a entériné l'avancement d'une journée du match d'ouverture de ce Mondial 2022.
C'est ce qu'indique l'instance mondiale du ballon rond dans un communiqué confirmant des informations données mercredi par des sources proches du tournoi. Le match entre le pays organisateur de la compétition, le Qatar, et l'Équateur, initialement programmé le 21 novembre, aura donc lieu le 20 novembre, tandis que la rencontre opposant le Sénégal aux Pays-Bas, prévue le lundi 21 novembre, a été décalée de quelques heures. Cette décision permet ainsi de revenir à la tradition selon laquelle le premier match est disputé par le pays hôte.
NBA, le numéro 6 de Bill Russell, définitivement retiré.
Oui, le numéro 6 porté par Bill Russell, légende de la NBA et militant des droits civiques décédé fin juillet, sera retiré de façon permanente dans toutes les salles des franchises à partir de la saison prochaine. C'est ce qu'a annoncé la Ligue nord-américaine de basketball. Pour la première fois, un numéro de maillot sera définitivement retiré dans toute la NBA, ce qui veut aussi dire qu'il ne sera plus jamais attribué à aucun autre joueur. Ceux qui le portent déjà pourront toutefois le conserver.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, en visite au Rwanda, a indiqué que tout soutien aux groupes qui perturbent la sécurité de la région doit cesser. Il a fait cette déclaration hier à l'issue d'un entretien avec le président rwandais Paul Kagame. De Kigali, le compte-rendu de Jean Damascène Manishimwe.
La deuxième journée du secrétaire d'État américain Anthony Blinken au Rwanda a débuté par une entretien avec le président Paul Kagame. Le diplomate américain a révélé qu'il a évoqué avec le président rwandais le cas de Paul Rusesabagina détenu au Rwanda.
Nous continuons à demander au gouvernement de considérer nos inquiétudes sur le respect de ses droits et faire en sorte que des cas similaires ne se produisent plus dans l'avenir.
À ce propos, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, a martelé que la position du Rwanda est la même. Rusesabagina a été reconnu coupable de terrorisme. Il doit purger sa peine.
La personne a été condamnée. Une sanction lui a été infligée. Il est en détention et il va purger sa peine. Croire qu'il y a une pression qui va faire que les Rwandais se réveillent un matin et entendent dire que quelqu'un est libéré suite à la pression étrangère, ça n'existe pas.
À propos du rapport des Nations Unies qui accuse le Rwanda de soutenir le M23, le chef de la diplomatie américaine a fait savoir que son pays est pour une issue pacifique à cette crise.
Il y a
des preuves que le rapport a révélées selon lesquelles les deux parties soutiennent des groupes terroristes, qu'ils soient les FDLR, tenus par l'armée du Congo, ou le M23, appuyé par le Rwanda. Notre position sur cette question est claire. C'est que ce soutien pour chaque groupe soit arrêté.
Face à ces accusations, le Rwanda continue toujours de clamer son droit de défendre son territoire.
La présence des FDLR et l'étroite collaboration avec l'armée de la RDC ont été la cause la plus significative de l'insécurité et cela permet aux FDLR de mener des opérations terroristes sur le territoire du Rwanda, chose que le gouvernement du Rwanda ne peut jamais accepter.
Le passage du secrétaire d'État américain à Kigali en provenance de la République démocratique du Congo laisse planer l'espoir des discussions possibles pour surmonter les défis sécuritaires dans la sous-région, surtout que les États-Unis restent un partenaire clé de la RDC comme du Rwanda. Jean Damascène Manishimwe à Kigali pour VOA Afrique.
VOA Afrique à Kigali au Rwanda sur 104.3, 24h sur 24.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les prisonniers qui croupissent dans les prisons de Beni et Butembo dans la province du Nord Kivu vivent, affirme-t-on, dans des conditions exécrables. Frappés par la malnutrition, beaucoup d'entre eux tombent malades faute de soins. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent une telle situation et invitent les autorités à prendre leurs responsabilités, nous dit notre correspondant Zanem Neti Zaidi.
Les prisons de Beni et de Butembo, dans la province du Nord Kivu, sont plus que surpeuplées. La prison de Beni, construite pour une capacité de 150 personnes, abrite maintenant plus de 800 détenus. Le directeur de la prison, Tongo Makelele, déclare qu'en ce moment, le centre de détention subit une rupture de produits alimentaires.
Je confirme exactement qu'il y a vraiment carence alimentaire et si vraiment il n'y a pas de soutien par rapport aux différentes autorités et aux ONG, vraiment nous allons assister au pire.
Beaucoup de détenus sont malades en raison d'une situation alimentaire et ils sont frappés par la malnutrition. À Butembo, la situation est pire. La diarrhée est devenue une maladie presque chronique pour les prisonniers. Le mois dernier, certains sont morts faute de soins médicaux, selon Aubin Louhavo, directeur de la prison de Butembo.
Nous connaissons ce problème de prise en charge des détenus. La mauvaise alimentation crée la malnutrition aiguë chez les détenus. Les mois passés, nous avions enregistré des cas de diarrhée et 3 sont morts suite à cette maladie.
Angelus Kavuti-Rouaki, de l'Organisation de défense des droits de l'homme, s'insurge contre la léthargie des autorités en matière d'alimentation et des soins médicaux pour ces détenus.
Donc depuis un certain temps, tantôt c'est la CSR qui intervient et le gouvernement provincial qui intervient à SWAP. Donc la situation n'est pas bonne. Mais le problème, les difficultés, c'est souvent au niveau des soins.
Dénonçant ces conditions inhumaines dans lesquelles se trouvent les prisonniers dans l'est du pays, cet activiste demande aux autorités de respecter les vies humaines en offrant aux prisonniers de meilleures conditions.
Donc nous demandons aux autorités que les gens qui sont en prison, ce sont les personnes humaines qui ont les mêmes droits que nous qui sommes à l'extérieur de la prison. Donc ils ont les mêmes droits et l'État a l'obligation de les assister dans les conditions où ils se trouvent.
Selon le rapport de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, les prisons de la République démocratique du Congo sont hors normes. Elles sont considérées comme des lieux de misère en raison des conditions inhumaines dans lesquelles vit la population carcérale. En plus des conditions difficiles, les prisonniers sont susceptibles d'être attaqués à tout moment par les groupes rebelles de la région. Le cas le plus récent a été l'attaque de la prison de Butembo par des hommes lourdement armés, identifiés selon l'armée à des rebelles Maïmaï. Des policiers ont été tués et près de 800 prisonniers ont pris le large et sont partis dans la nature. Zanem Netizaï Diagoma pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
À Genève, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale se penche depuis hier sur la situation aux États-Unis après des siècles de racisme que Washington a reconnu comme étant systémique. Pendant 2 jours, ce comité onusien composé de 18 experts indépendants va entendre de hauts responsables américains, des défenseurs des droits humains et des ONG pour déterminer si Washington respecte ses obligations internationales en matière de lutte contre la discrimination raciale. 8 ans après le dernier examen, la société civile entend se concentrer sur la question de la reconnaissance et des réparations. Pour en parler, Eric Manirakidza a joint Marilyn Sefrocle, professeur à Howard University, ici à Washington.
Je pense que c'est une excellente approche de la société civile. Ça permet aux États-Unis de se remettre en question. Ça permet au gouvernement américain de se pencher sérieusement sur les questions de réparation et de voir comment endiguer le racisme systémique.
Cette réparation prendrait quelle forme selon vous?
Alors, il y a plusieurs formes de réparation. Comme on sait, il y a des questions vraiment très tangibles, comme par exemple ce que l'on appelle aux États-Unis le redlining, c'est-à-dire que pendant un certain nombre de temps, pendant un certain nombre de siècles, on a concentré les Noirs dans une certaine partie des villes. Et ceci a été fait de façon répétitive dans pratiquement toutes les villes des États-Unis. Et donc, il y a énormément de choses à faire en matière de logement, en matière d'accès à la propriété, et aussi les banques devraient y mettre de leur en donnant plus facilement accès aux prêts aux Noirs américains, parce que tout un chacun sait que obtenir un prêt pour un logement, c'est l'une des choses les plus difficiles aux États-Unis pour beaucoup de Noirs américains. Donc déjà, c'est des approches très concrètes. En matière d'éducation également, pendant des décennies et des décennies, les Noirs n'avaient pas accès à l'éducation tertiaire, et c'est donc la raison pour laquelle beaucoup de HBCU, c'est-à-dire d'universités historiquement noires, ont été créées, tels que Howard University, Spelman, Morgan, etc. Et donc déjà, en matière d'éducation, en matière de logement, il y a des choses à faire. Et beaucoup sont contre une distribution simplement d'argent aux foyers noirs, mais ça devrait aussi être mis sur la table.
L'organisation américaine ACLU a reconnu que l'administration Biden a montré qu'elle pouvait nommer le problème, mais l'organisation demande des mesures plus audacieuses. Au regard de la configuration politique actuelle, quelles sont les marges de manœuvre à la disposition du président Biden?
Alors évidemment, les marges de manœuvre à la disposition du président Biden sont très restreintes parce que le pays est extrêmement polarisé et politiquement. Le pays est divisé, comme vous savez, entre républicains et démocrates, mais les tensions se sont avivées durant les dernières années. Et il y a une certaine polarisation sur l'échiquier politique américain. Donc, ça va être assez difficile, je dirais même délicat, de la part de l'administration Biden de mettre en place ce type de réforme.
Marilyn Sefocle, professeure à Howard University, ici à Washington.
Washington, la voix de l'Amérique.
Ici aux États-Unis, l'attaque du 6 janvier contre le Capitole occupe une place importante dans l'État du Wyoming, dans l'ouest du pays. Liz Cheney, la représentante républicaine de cet État, risque de perdre son siège au Congrès pour avoir participé à une enquête sur l'ancien président Donald Trump. Du Wyoming, notre correspondante au Congrès, Catherine Gibson, explique pourquoi cet État est en test sur ce que les électeurs américains pensent de l'ancien président. Récit de Yacouba Ouedraogo.
Le Wyoming, État le moins peuplé des États-Unis, est solidement républicain depuis des décennies. Mais au cœur de ses montagnes et ses villes rurales, deux candidates sont en désaccord sur l'ancien président Donald Trump. Liz Cheney.
Donald Trump a fait le choix délibéré de violer son serment, d'ignorer la violence en cours contre les forces de l'ordre, de menacer notre ordre constitutionnel. Il n'y a aucun moyen d'excuser ce comportement.
Représentante du Wyoming depuis 2017, Liz Cheney a été l'une des rares dans le camp républicain à dénoncer Trump, à voter pour sa mise en accusation l'année dernière et à co-présider la commission d'enquête du Congrès sur l'attaque du 6 janvier contre le Capitole. Même si elle est la fille d'un ancien vice-président républicain, Liz Cheney a été expulsée du Parti républicain du Wyoming pour sa position sur Trump. L'ancien président soutient sa principale concurrente au sein du parti, l'ancienne avocate Harriet Hyman. Les deux candidates s'affrontent sur Donald Trump dans leur débat. Liz Cheney.
L'élection n'a pas été volée. Elle sait qu'elle n'a pas été volée. Je pense qu'elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas été volée parce qu'elle est complètement redevable à Donald Trump.
L'ancien président soutient sa principale concurrente au sein du parti, l'ancienne avocate Harriet Hyman. Les deux candidates s'affrontent sur Donald Trump dans leur débat.
Nous avons un comité au Congrès en ce moment qui se concentre sur quelque chose qui s'est passé il y a 18 mois. Il ne se concentre pas sur les problèmes qui sont importants pour les habitants du Wyoming.
À l'approche de la primaire du parti la semaine prochaine, un sondage montre que la plupart des électeurs du Wyoming se rangent du côté de Hyman.
Cheney vient de franchir la ligne sur trop de choses et vraiment, elle ne vit pas dans le Wyoming. Elle ne l'a pas fait depuis longtemps et je ne pense pas qu'elle représente les valeurs du Wyoming.
Elle ne peut pas aimer Donald Trump. Elle peut faire tout ce qu'elle veut pour essayer de l'amener là où il ne peut plus se représenter à cause du 6 janvier ou quoi que ce soit à propos de tous ces non-sens. Mais les électeurs de Wyoming défendent Trump. La majorité les soutient fermement.
Mais d'autres électeurs du Wyoming disent que Cheney représente les vraies valeurs républicaines.
Nous avons besoin d'une leader comme Liz. Je pense qu'il est important pour nous de regarder ce qui s'est passé à la fois avec la présidence Trump et ensuite le 6 janvier. Et je pense que la vérité doit vaincre les mensonges. Je crois que c'est ce qu'elle essaie de faire, c'est de découvrir la vérité.
Cheney est piétiné par Trump, ce qui est mal à tout point de vue. Je n'aime pas Hageman et je ne sais pas ce qu'elle a fait.
Donald Trump a remporté sa plus grande victoire aux élections de 2020 dans le Wyoming avec 70% des voix. La députée Liz Cheney mène donc un combat difficile à gagner.
Merci Yacouba. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Fatouma Kalala Alimassi, à la console Jonah Cummings. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.